Vous êtes sur RTL.
8h.
RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin.
Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, 6h en tête-à-tête avec un preneur d'otages.
C'est le cauchemar éveillé vécu par cet employé de banque au Havre. Il raconte, témoignage RTL dès le début de ce journal. Aux États-Unis, la puissante NBA se rebelle après les violences policières. Des matchs sont reportés, c'est du jamais vu. Et puis J-2 avant le départ du Tour de France, on sera à Nice où les fans attendent déjà.
J'aime le vélo, je suis content de les voir. Les coureurs et tout ce qui est tout autour. C'est beau à voir.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Ça s'était passé en plein cœur de l'été, le 6 août dernier, au Havre, dans une agence bancaire du centre-ville. Un homme armé avait fait irruption dans l'après-midi, retenant 6 employés, avant de se rendre au raid en fin de soirée, sans faire de blessés. L'un des otages a accepté de raconter ce qu'il a vécu de l'intérieur. Il s'est confié pour RTL à Frédéric Veil.
Le preneur d'otages nous indique qu'il faut qu'on s'assoie, et donc il est déjà avec son arme à la main. Rapidement, il nous dit que si forcément il y en a un qui joue les héros, il le bute. Et puis, il sort ses couteaux, ses explosifs artisanaux. Donc, on voit que c'est sérieux. Et puis, il sort donc le tapis de prière et commence à prêcher, à nous donner quelques versets coraniques. À ce moment-là, vraiment, je me dis dans ma tête, des prises d'otages qui commencent comme ça. Alors, j'ai pas beaucoup de références, mais il y en a combien qui finissent mal? Ayant pas de référence, je me dis que vraiment, ça sent pas bon. Donc, il nous parle de ses revendications. Hein. Et puis, il nous dit que tout ça va se terminer à 4h du matin, après la dernière prière, et qu'il veut finir en beauté avec le dernier otage.
Ça a été long.
Ça a été rythmé, quoi. Ça a été rythmé par la sortie de mes collègues. Et j'étais effectivement le dernier. Alors, je pense que le plus difficile, hein, vraiment, c'est la première heure. Et puis, effectivement, quand je me suis retrouvé tout seul avec lui, la dernière demi-heure, vraiment, ça a été compliqué. Là, il changeait vraiment d'avis tout le temps. Moi, j'ai essayé de reprendre le relais en lui disant, écoute, si tu sors avec tes armes, tu sais très bien que c'est pas des enfants de cœur qui sont dehors. Donc, ils vont te buter.
Et il est sorti.
Et il est sorti avec ses armes, dans le sas. Il a laissé ses couteaux. Je le voyais, c'était hallucinant.
Comment on se remet de tout ça?
On se remet de tout ça en disant qu'il n'y a pas eu de mort, qu'il n'y a pas eu de blessés. On relativise. On est en vie, on est content.
Voilà, ce reportage, ce témoignage RTL recueilli par Frédéric Veil, le preneur d'otages, un récidiviste, hein, puisqu'il avait déjà braqué une banque à Paris en 2013, a été depuis mis en examen et placé en détention. Il était connu pour des antécédents psychiatriques et suivi pour radicalisation.
2 scooters saisis, c'est le maigre bilan de l'opération de police organisée hier soir à Grenoble.
Dans le quartier sensible du Mistral, après la diffusion de ces vidéos montrant des hommes cagoulés et armés tenir le pavé, vous les avez sans doute vus, le trafic de drogue règne en mer. Dans le secteur. Les policiers sont donc intervenus, mais sans grand succès. Aucune interpellation. Le but était de réaffirmer l'autorité de l'État, d'après les mots du préfet. D'autres quartiers ont fait parler d'eux ces derniers temps. À Dijon, rappelez-vous, ces affrontements entre Maghrébins et Tchétchènes, des moyens supplémentaires avaient été annoncés. Où en est-on? Frédéric Perruche est retourné sur place.
Au lendemain des 4 nuits d'affrontements entre groupes tchétchènes et jeunes des Grésilles, les policiers ont multiplié les opérations coup de poing. 30 interpellations, une dizaine de condamnations, 3 carabines saisies, des kilos de munitions, des couteaux, des cocktails Molotov et de la drogue. Un coup de pied dans la fourmilière spectaculaire, certes, mais qui ne règle pas le problème des trafics qui continuent de prospérer dans les quartiers malgré les efforts quotidiens des policiers, explique Michael Janel du syndicat SGP Police.
Le trafic de stupéfiants a repris de plus belle. Hein. L'installation dans les cages d'escalier de ce qu'on appelle des fours, avec des organisations, des guetteurs, etc., a repris. Et régulièrement, on a l'exemple d'interpellations de la part de collègues qui, toutes les semaines, vont harceler dans les quartiers les dealers, les trafiquants, et qui arrivent à faire de très belles affaires avec quelques centaines de grammes d'héroïne, de cocaïne, du cannabis, des milliers d'euros. Mais on voit clairement que ça n'a jamais cessé et que c'est devenu une manne financière pour certains délinquants du secteur.
Mardi soir, une fusillade sur fond de trafic de drogue probablement a fait un mort et un blessé grave. Un règlement de compte avec armes qui reste plutôt rare à Dijon. Mais les policiers ont bien besoin des renforts promis par le Premier ministre. 20 fonctionnaires supplémentaires, mais seulement 7 sont pour l'instant annoncé.
Frédéric Perruche.
Que peut faire l'État? Nous en débattrons à 8h20 avec Maud Tavel, qui est adjointe au maire de Grenoble, et Driss Haïti-Youssef, qui est lui docteur en droit et spécialiste de sécurité.
La sécurité restera comme l'immense faillite du quinquennat. C'est ce qu'affirme ce matin dans le Figaro Xavier Bertrand, qui réaffirme par ailleurs se préparer pour la présidentielle. Les bars et les restaurants parisiens devront-ils fermer à 23h, comme c'est désormais le cas à Marseille? Rien n'est exclu pour le gouvernement, dont le chef Jean Castex fera une conférence de presse ce matin à 10h30. Le forum de Davos, prévu en janvier, reporté en raison de la pandémie. Les grands patrons et les puissants de ce monde profiteront pour changer d'une vision plus bucolique de la station suisse, puisque le rendez-vous est désormais reprogrammé au début de l'été.
RTL, il est 8h05. Le poumon de la Terre brûle toujours.
34% de surface perdue en un an. La forêt amazonienne est en flammes. Les incendies sont même cette fois plus nombreux et plus violents que l'an dernier. L'an dernier, où Emmanuel Macron s'était ému, mais pas cette fois. Des militants de Greenpeace se rassemblent en ce moment devant le ministère de l'écologie. Cécile Lebas, chargée des forêts chez Greenpeace.
On s'en souvient, l'année dernière, effectivement, Emmanuel Macron s'était exprimé assez fortement. Et malheureusement, ce qui est très préoccupant cette année, c'est que les incendies repartent dans des proportions qui sont similaires et que le silence d'Emmanuel Macron sur le sujet est absolument assourdissant. En fait, en Amérique latine, les principales causes de la déforestation, ce sont la production de soja et la production de bœuf. Et en France, ce soja, il sert en immense majorité à nourrir nos élevages de porcs, de poulets. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles Emmanuel Macron ne s'exprime pas cette année sur le sujet de l'Amazonie, c'est qu'il n'a entrepris finalement aucune action significative pour s'assurer que les importations de produits agricoles qui arrivent en France ne sont pas liées à la déforestation ou aux incendies.
Propos recueillis par Virginie Garin.
Dans un instant, les stars du basket américain se mobilisent contre les violences policières.
Les gens sont fatigués, que je le répète, mais nous avons peur. Comme noirs, nous sommes terrifiés.
Et c'est LeBron James que vous venez d'entendre. On sera aux États-Unis dans une minute. Restez avec nous.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Et direction tout de suite les États-Unis, où la colère se propage comme une traînée de poudre.
Depuis cette nouvelle bavure policière ayant visé un jeune père de famille noire américain à Kenosha, dans le Wisconsin, l'homme est toujours hospitalisé. Les manifestations se multiplient. Deux personnes ont été tuées hier lors d'émeutes et les stars du basket s'en mêlent. Trois matchs de la prestigieuse NBA ont même été reportés. Philippe Corbet, c'est inédit.
Oui, en fait, depuis le début du mandat de Donald Trump, des sportifs noirs sont en première ligne de ce combat contre les violences racistes de certains policiers, notamment en mettant le genou à terre lors de l'hymne national au début des matchs. Le président, furieux, avait même appelé à les boycotter. Cette mobilisation a monté d'un cran depuis le meurtre de George Floyd et maintenant celui de Jacob Blake. L'idole LeBron James se place en porte-parole de la communauté noire.
Les gens sont fatigués, que je le répète, mais nous avons peur. Comme noirs, nous sommes terrifiés.
Et Doc Rivers, l'entraîneur des Clippers, fait directement référence à la convention républicaine qui a mis en avant un couple blanc inculpé pour avoir visé avec un fusil et un pistolet des manifestants noirs.
J'ai regardé la convention républicaine et ils crachent cette peur. Tout ce que vous entendez, c'est Donald Trump et les autres parler de peur. C'est nous qui nous faisons tuer. Tout ce qu'on entend, c'est parler de peur. C'est fascinant. Alors que nous ne cessons d'aimer ce pays ne nous aime pas en retour.
Et il finit en larmes.
Philippe Corbet, le tournoi de tennis de Cincinnati est lui aussi perturbé. La 10e joueuse mondiale, la japonaise Naomi Osaka, ayant décidé de se retirer de la demi-finale programmée aujourd'hui. Tous les matchs sont reportés à demain. Aux États-Unis, toujours l'ouragan Laura vient d'atteindre la Louisiane. Ouragan extrêmement dangereux. D'après les météorologues, il s'approche de la catégorie 5, la plus haute sur l'échelle d'intensité. Et puis alors qu'Emmanuel Macron se rend au Liban mardi pour la deuxième fois depuis l'explosion de Beyrouth qui a fait près de 80 morts. Le pays doit se reconstruire économiquement et politiquement. Le risque aujourd'hui, c'est la disparition du Liban, a dit ce matin sur RTL le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. En football, les Lyonnaises qualifiées en finale de la Ligue des Champions. Elles ont battu leur rival du PSG 1-0. Elles peuvent espérer viser maintenant une 7e couronne européenne. Ce sera dimanche face aux Allemands de Wolfsburg.
Une finale à suivre sur W9 avec les commentaires de la nouvelle recrue du groupe M6, Xavier Demergue, que vous retrouverez également dans les émissions foot du service des sports d'RTL.
Premier coup de pédale ce samedi à Nice. Cette fois, on y est presque. Le Tour de France, reporté pour cause de Covid, s'apprête à parcourir près de 3500 km dans la cité des Anges. Raphaël Vantard, on n'en peut plus. plus d'attendre.
Sur la place Masséna, en plein cœur de Nice, avec la crise sanitaire du Covid, l'immense compte à rebours du Tour de France a bien failli s'arrêter à jamais. Mais il affiche fièrement ce matin J-2, deux jours avant le début de la grande boucle. Mathis a 10 ans, il porte fièrement un t-shirt et une casquette du maillot jaune.
Bah, je suis très content parce que ça fait vraiment beaucoup de temps qu'ils n'ont pas fait commencer le Tour de France à Nice. Bah, je suis avec mon père. Quand je porte la casquette, le t-shirt, je crois que je suis dans le Tour de France en fait.
L'engouement est le même chez Robert, plus de 70 ans, des milliers de kilomètres au compteur de son vélo et des innombrables heures à suivre le Tour de France à la télévision et à la radio.
Ça fait plaisir, surtout 3 jours, deux belles étapes, puis le départ de la 3e, donc c'est super. J'aime le vélo, je suis content de les voir, les coureurs et tout ce qui est tout autour, là, c'est beau à voir.
Même si les consignes de sécurité se durcissent d'ici le départ, Anna ne manquera pas non plus de venir voir la course dans la rue, loin de la ligne d'arrivée s'il le faut.
C'est quand même un événement sportif qui est connu mondialement, donc que ça se passe à Nice et que ça commence à Nice, c'est bien, c'est super. Hein. On n'est pas loin du départ là. Ça approche, on a hâte.
Avant le départ du Tour de France, une toute petite partie du public aura la chance de voir les coureurs ce soir lors de la grande présentation des équipes.
On reportage à Nice de notre envoyé spécial Raphaël Vantard.
L'histoire du jour.
Joe Biden roule-t-il à l'eau claire ? Donald Trump demande à son rival de passer un test antidopage avant de débattre avec lui le 29 septembre. Il s'étonne de l'avoir trouvé très en forme en mars lors de son dernier débat avec Bernie Sanders. Je suis bon pour voir ce genre de truc, a dit le président américain.
Aussi des spécialistes des questions de dopage, je ne le savais pas, ça, le président des États-Unis. C'est formidable. C'était le journal de Jérôme Florin. À 8h35, en tout cas, ne manquez pas notre rendez-vous RTL. Vous êtes comme ça. Vous pourrez découvrir le Robinson de l'île de Patiras. C'est dans l'estuaire de la région de la Gironde où il tient son restaurant.
Je vois l'annonce ici, phare, île, cherche un cuisinier, moi je retrouve la cuisine. Tout ça sur un lieu assez autonome et qui doit fonctionner, sur lequel on doit se débrouiller tout seul sur quelques...